Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Alors, mesdames, messieurs, vous pouvez nous écrire aussi à Canal M si vous avez des suggestions d'invités. On a très belle équipe ici et on va s'occuper de vous parce que vous avez des aspirantes et des aspirants, des gens qui vous inspirent. Nous en avons une aujourd'hui en studio. C'est un privilège de vous recevoir, Monique Lefebvre.
Merci.
Alors, on parle des rêves, on parle de ce qui vous a propulsé, ce qui vous a donné envie d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut mettre une date à partir des années 70? Quand est-ce que ça se concrétise? En 84, je pense, vous arrivez à Altergo, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe?
Je suis arrivée chez Altergo en 1980 et en 81, c'est l'année internationale des personnes handicapées. Alors, ça donne vraiment toute une effervescence. Les personnes handicapées sont devenues à la mode parce qu'avant, on était moins. Quand il y avait une année internationale, les gens en parlaient plus. Alors, les lumières se sont posées sur les personnes qui ont des limitations. Ce fut un temps pour faire connaître davantage qu'on se faisait. Et j'étais déjà en 1980 à Altergo. Alors, 81 est vraiment arrivé pour mettre la lumière. Et j'ai toujours eu un faible pour les communications et j'ai un conjoint qui est en communication. Alors, c'était l'année internationale, c'était une année pour communiquer. On a fait un projet avec l'UQAM, monte une vidéo. On a travaillé avec des gens vraiment qui avaient l'œil et ont fait un travail de qualité exceptionnel pour changer l'image. Alors,
s'appelait, ça avait un autre nom, non, l'association?
Oui, ça s'appelait, maintenant ça s'appelle Altergo,
oui,
mais autrefois c'était le long nom Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de Montréal.
Alors, on va prendre une respiration avant puis après.
Oui, et comme on a eu un porte-parole pour le défi sportif qui est Yvon Deschamps qui a dû promener ce nom long, aussi long, c'est difficile à retenir, je lui ai dit, écoute, Monsieur Deschamps, je pense qu'on va faire un gros travail, on va changer de nom pour que ce soit plus simple.
Vous aviez un bon mentor parce qu'il vous a bien conseillé finalement.
Oh, absolument, c'est un homme.
Alors vous changez le nom?
Oui, on l'a changé. Il y a eu plein d'aventures sur le changement parce que lui, c'était dans les années 1999-2000 où on a changé le nom pour Altergo. Alors, donc pour moi, à l'époque, l'année internationale a vraiment a été une rampe de lancement pour les communications.
Mais l'année internationale, je vais revenir à ce que vous avez dit parce que ça titille. Mm-hmm. Vous avez dit parce qu'ils étaient à la mode.
Oui. Je trouve que c'est beaucoup une question de mode. Oui, puis j'ai pas honte
de
dire.
Mais dites-le, justement. C'est comme si avant, on s'en occupait pas, alors il faut que ce soit la saveur du jour et c'était la saveur de l'année, c'est incroyable quand même.
Puis je vous dis, on en a profité. Vraiment, là, c'était une opportunité parce que le gouvernement aussi investissait des fonds particuliers, puis on avait accès, on a pu vraiment faire des choses qui nous ont permis de sortir un petit peu plus de terre et de faire connaître les personnes qui ont des limitations. Mm-hmm. Et c'est là qu'on commençait la sensibilisation.
Et là, est-ce que l'argent est venu plus rapidement? Les gens, justement, parce que c'était l'année des personnes handicapées, il y avait plus d'ouverture et au niveau d'avoir le financement, ça allait mieux?
Pour cette année-là, parce que en 81, l'année internationale, 82, grosse récession au Québec.
Ouais.
Quand j'étais à l'association, à chaque année, on avait une augmentation statutaire gouvernementale d'environ 10 %. Et si tu avais des projets spéciaux, ils finançaient des projets spéciaux. En 82, on coupe tous les projets spéciaux et on dit on n'augmente plus du tout le financement des organismes communautaires. Mmh. Alors, c'était un réveil brutal en 82 pour dire, écoute, il n'y a plus de ressources gouvernementales qui vont accroître d'année en année. Il faut que tu trouves des ressources pour pouvoir faire cheminer puis grandir l'association parce qu'il n'y a personne qui va payer les hausses salariales et les hausses de loyer.
Ouais. Et puis les besoins sont toujours là.
Oui, puis grandissant. Ouais, même, on voulait faire des choses pour améliorer la situation des personnes handicapées. On ne voulait pas retourner en arrière, on voulait aller en avant.
Oui, parce que ce que vous m'aviez dit aussi, dans les années 60, c'était comme vraiment, il n'y avait rien, là.
Ah non,
puis plusieurs personnes le disent, là.
Oui, écoute, aujourd'hui, on regroupe une centaine d'associations. À l'époque, il y en avait peut-être une dizaine. Non, les choses ont beaucoup changé.
Alors, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas Altergo, si vous aviez quelques minutes pour décrire l'organisme, exactement, on dit, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse la parole là-dessus.
Parfait. Altergo, c'est une organisation de regroupement. C'est un organisme rassembleur. On regroupe 100 organismes préoccupés par l'accès aux loisirs, au sport et à la culture. Et à ces organismes, on offre 4 programmes et un événement majeur. Alors, on a un programme de soutien financier. on gère des fonds pour aider l'accompagnement en loisirs, par exemple, pour faire en sorte que les jeunes puissent continuer à être intégrés dans les camps de jour durant l'été, s'ils sont intégrés à l'école, mm-hmm. ou si les adultes ont besoin d'accompagnement. On a aussi des programmes de formation et expertise. Alors, on offre de la formation sur l'accueil, comment recevoir des personnes qui ont des limitations. On donne de la formation sur comment gérer l'accessibilité universelle, parce que ça fait partie des valeurs et c'est dans l'ADN d'Altergo de promouvoir l'accessibilité universelle. Oui, pour les personnes qui ont des limitations, mais pour tout le monde. Mmh. Alors, on forme aussi les gens. On donne beaucoup de formation aux élus sur comment gérer l'accessibilité universelle, comment prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'il y ait un développement durable accessible universellement. On a aussi de la reconnaissance pour tous ces organismes qui travaillent très fort, qui travaillent avec beaucoup de bénévoles, peu de ressources. On trouve important de redonner, faire valoir ce que les gens font. Et le quatrième programme d'Altergo... J'ai un blanc de mémoire tout à coup, mais je vais parler de...
Je peux dire, parce que moi, je trouve que c'est incroyable au niveau des compétitions quand il y a le défi sportif qui arrive. Alors, je vais être à mon tour de parler.
Oui, ça me fait toujours plaisir d'entendre parler du défi. Allez-y.
Alors, non, c'est parce que j'ai résumé les choses. Ma recherchiste a fait un boulot monstre. 7 jours de compétition, 14 sports, athlétisme, basketball, curling, escrime, flag football, goalball, gymnastique rythmique, hockeyball, natation, paracyclisme, rugby, soccer, volley. 7 sites à Montréal. En plus, il y a Longueuil-Boucherville. Tous les types de déficiences. Mm-hmm. 92 écoles et centres de réadaptation qui participent. Donc, 27 disciplines. Et 1250 bénévoles.
Oui, ça, c'est le défi sportif.
Alors, ça, c'est la journée dont vous parliez au début, c'est-à-dire que c'est un petit peu la cerise sur le sundae. Mm-hmm. Et ça a l'air, parce que j'ai des collègues à la radio qui sont allés, et ils ont rapporté des brides de témoignages à l'émission ici à Canal M, et les gens, ils touchent plus à terre.
Voilà.
Vous leur redonnez confiance, vous leur redonnez vie. Et ils vivent d'une année à l'autre pour ce défi-là. C'est absolument merveilleux. Il y a comme une magie du possible. Du possible et de faire des choses. Et les gens sont très compétitifs. On m'a dit que c'est pas drôle. Est-ce que c'est vrai au niveau de la compétition?
Oui. Au défi sportif, on a la relève côtoie l'élite. Alors, l'élite sportive, quand tu fais partie de l'élite sportive, gagner, c'est important. C'est une grande motivation. Donc, il y a une grande place à la compétition. Et il y a aussi la relève. On reçoit 4000 enfants qui viennent à travers le Québec pour compétitionner pendant 5 jours au défi sportif. Alors, pour eux, c'est une initiation à la compétition. Alors, souvent, ils font pour le plaisir, pour collaborer. La médaille est importante, mais pas à tout prix, comme dans le domaine de l'élite. Mais ce que vous dites, c'est vrai. On sème du bonheur, on sème de l'estime de soi.
Vous semez du capable, pour prendre votre expression de votre mère.
Oui, puis c'est aussi la fierté des parents de pouvoir voir que leurs enfants sont capables. Parce que souvent, l'enfant qui a une limitation, qui est assis à la table avec sa famille, c'est souvent lui qui attire l'attention par ses besoins et non par sa contribution. Mm-hmm. Alors là, il arrive au souper, puis il arrive avec sa médaille, ou par le fait d'avoir participé, il arrive avec son chandail, puis j'ai bougé aujourd'hui, j'étais là, et la famille est fière de ce qu'il a fait, parce qu'on valorise quand même beaucoup plus aujourd'hui le fait de bouger. Donc, c'est une fierté pour la famille. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour Altergo, de faire en sorte que les familles, que la personne ait une estime d'elle-même. Parce que quand tu as une estime de soi, tu as confiance en toi, en ton potentiel, tu défonces des portes, puis tu vas vers l'avant, puis ta qualité de vie est vraiment meilleure.
Et ça aide à se tenir debout, ça.
Oui, madame.
La confiance.
Absolument. Vous avez de la suite dans les idées.
La suite dans les idées. Alors, vous avez choisi justement une très belle chanson.
Oui, on est déjà rendu là,
On est rendu à Fred Pellerin, Tenir debout. Je vous laisse les paroles qu'il faut pour la présenter. Pourquoi? Le pourquoi?
Deux choses. J'aime aussi l'artiste, parce que j'ai présenté des artistes que j'apprécie beaucoup. Et tenir debout, c'est un principe de mon père. Dans la vie, c'est un homme à principe. Maman disait toujours, c'est difficile quand on est jeune d'avoir un père qui a des principes. Mais ça allume, et pour lui, c'est important de se tenir debout, d'être capable de faire quelque chose dans la vie, de soi, de stimuler les autres. Et vous entendrez dans cette chanson-là beaucoup de noir et blanc. dans les propos de Fête Pellerin. Il parle d'un côté gauche, côté droit, il parle de la différence. J'ai un amour fou pour le tai chi. J'ai découvert les Chinois et les Chinois montrent toujours que dans la vie, il y a toujours le noir, le blanc, il y a le soleil, il y a la lune. Il y a... Et alors, pour moi, ça teintait un peu aussi de cet esprit de la vie.
Alors, on l'écoute.
Soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.
On n'a pas peur de dire que c'est un chef-d'œuvre.
C'est fantastique.
Je le partage avec vous.
Merci beaucoup.
C'est vraiment...
Merci d'apprécier cette chanson. C'est... J'espère que les auditeurs aussi l'ont aimé.
Ah, j'en suis certaine qu'on va avoir des gens qui vont nous appeler, nous écrire. Mais surtout présenté par vous et surtout dans votre pratique.
Mm-hmm.
Dans votre travail, il y a comme une double signification, se tenir debout.
Oui, même si tu as une limitation, tu peux être fier de toi.
Exactement.
Tiens-toi debout, on peut te regarder et t'apprécier.
Exactement.
Ta différence fait ta richesse.
Oui, tout à fait. Ça a comme un double sens pour cette chanson-là. Mm-hmm. On est rendu toujours, je vais aller dans le défi sportif parce que je disais, c'est vraiment la cerise sur le sundae. C'est vraiment la journée extraordinaire, les journées extraordinaires. Dites-moi, ça a commencé comment? Qui a eu l'idée? Est-ce que c'est votre idée de dire, on va faire ça?
Oui. Alors, je suis la fondatrice, très fière d'être fondatrice de cet événement aujourd'hui qui a rendu grandiose et rassembleur. Alors, vous vous souvenez, je vous disais, moi, je voulais changer le regard des gens. Quand je voyais les gens qui regardaient mon père sur le bord de la clôture de sport, disant « Oh, wow! » ça m'a marqué. Et quand je suis arrivée à Altergo, on réunissait des gens de différents types de limitations. Alors, je me dis, si on met tous les gens ensemble, puis on est capable de se parler entre nous, et qu'on est 1000 personnes dans un centre sportif, il y a peut-être quelqu'un qui va regarder vers nous. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'ai eu l'idée de fonder le défi sportif, de rassembler les gens des différents types de déficiences. C'était l'année de la récession, 82. 84, je me disais, ben, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sorte de terre, il faut qu'on aille chercher des fonds. Alors, le défi rejoignait la volonté de changer des mentalités, d'être capable d'aller chercher des fonds, du financement et de stimuler la pratique du sport pour donner le goût aux gens que tu es en fauteuil roulant, c'est l'hiver, il y a plein de neige, il faut que tu ailles au gym. Quand tu as juste des bottes à mettre, tu ne veux pas y aller. Alors, imagine quand il faut que tu passes à travers le banc de neige en fauteuil roulant.
Exact.
Il faut donner un aboutissement. Ouais. Alors, c'est l'union de ces idées qui m'ont permis de créer le défi sportif avec mon père qui était là, mon conjoint qui était en communication. Et j'avais vraiment le goût d'aller chercher un porte-parole extraordinaire. Et j'ai osé envoyer une lettre à M. Deschamps et me donner rendez-vous. On s'est rencontrés, il a dit oui, il a été notre porte-parole pendant 15 ans. Alors, c'est un homme d'une très grande qualité, d'une grande notoriété qui nous a aidés à changer les mentalités.
Oui, parce que ça prend quand même quelqu'un qui croit à un projet, qui est connu parce que ça propulse le projet.
Absolument. Fait que lui, il nous a aidés beaucoup à changer les mentalités. Alors, voilà mon histoire et ma mission. Et j'espère continuer puis avoir d'autres opportunités pour surprendre les Québécois.
C'est tout à fait. Vous allez avoir je suis sûre que vous êtes une femme de projet. C'est une question que je ne pose pas souvent, mais vos parents, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que là, vous êtes vraiment dans une voie où vous travaillez.
Ouais.
Ils vous ont inspiré, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand
mon père nous a quittés il y a quelques années en mars. Mon père était spectaculaire. Il est parti le 13 mars. Quand on a vu la date, on s'est dit il y a un petit clin d'œil de mon père, tu sais, le fameux chiffre 13.
Oui.
Alors, mais lui, avant de quitter, c'est sûr qu'il était très fier du travail qui est réalisé. Ma mère nous appelle ses péchés d'orgueil, alors c'est quelque chose sur lequel je ne devrais pas trop m'étendre. Parce que moi-même, je me sens comme quelqu'un de simple qui accomplit son travail. Je ne me sens pas comme tous ces honneurs et ces choses-là. J'essaie de contribuer puis d'apporter. Mais je sais qu'elle est très fière de sa famille. Puis de
ça doit la toucher.
Oui, puis
est-ce qu'elle vient voir le défi sportif?
Ah, bien sûr, elle vient remettre des médailles à chaque année parce qu'on a un trophée au nom de mon père qui est remis à des jeunes qui font du basketball en fauteuil, parce que lui-même a
pratiqué. Donc, il vous accompagne, votre père?
Ah, toujours, et dans mon cœur.
Oui, mais en plus, avec la médaille, c'est quelque chose de beau, ça.
Oui, absolument. Oui. Ils sont très fiers, puis on a une famille quand même assez unie, les frères, les sœurs, les petits-enfants. Un sentiment de solidarité et on se tient debout ensemble.
Et vous avez une grande famille aussi parce que aussi les sportifs reviennent à chaque année. Ça a l'air que
oui, c'est une autre belle grande
ils ont
famille.
Ils n'ont même pas fini et puis ça y est, il y a une inscription puis il faut qu'ils soient là. Hein.
Ah oui, ben c'est les gens qui viennent puis ils prennent des vacances pour venir au défi. Les bénévoles, souvent, on s'attache à l'événement. Puis on a besoin aussi dans notre société de sentir qu'on arrive en quelque part où on est connu, reconnu puis on fait quelque chose ensemble.
L'utile et qui fait du bien.
Oui, exact.
Vous faites du bien dans votre pratique. Vous avez dit tout à l'heure, en début d'émission, moi, je regarde l'autre côté. Je regarde le côté de la médaille. Je ne regarde pas la pitié. Avez-vous eu des moments de découragement? Avez-vous eu des moments où ce n'est pas évident? Là, on a parlé en début d'émission. Bon, ça vient de l'extérieur, du gouvernement, qui a annoncé qu'il allait couper tout un gouvernement.
Oui, alors... Je réfléchissais à ça, puis je dirais dans la vie du découragement, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu plusieurs déceptions, c'est le mot qui m'est apparu. J'ai souvent eu des déceptions, puis quand tu es déçu d'une décision, comme aujourd'hui, je suis très, très déçue de la décision du gouvernement et des entités de penser couper des sous pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle qui apportent leur soutien. Je suis déçue de ce comportement-là. Puis ma réaction, c'est de dire, ben, comment on peut faire autrement? Comment on peut contourner ça? Mais je me donne pas le droit au découragement. C'est de dire, ben, écoute, quand tu es découragé, moi, je dis, je suis déçue. C'est sûr que tu as une baisse d'énergie. Tu vas être plus intériorisé. Tu vas regarder en dedans de toi qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses. Mais il y a tellement de beau chez les personnes qui ont des limitations que je ne peux pas baisser les bras. Tu sais, c'est comme...
C'est beau, la différence. Hein?
Oui.
Très beau.
C'est juste que notre société a besoin de l'entendre puis de le comprendre. Ouais. Puis je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait saisie.
On y va. Vous travaillez pour ça.
Oui, absolument.
Vous travaillez pour ça. Vos rêves, Monique Lefebvre, au niveau de l'alter ego, parce que j'ai dit tout à l'heure, vous étiez une femme de projet... Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez améliorer? Des années à consacrer à tel projet?
Oui. pour Altergo, mes rêves se sont concrétisés dans la planification stratégique qu'on a faite. Alors, j'ai 58 ans, ça fait longtemps que j'y suis. La préoccupation du conseil d'administration de l'équipe, c'est de préparer la relève. Et quand tu prépares une relève, c'est aussi les idées que tu mets sur la table. Comment tu mobilises cette équipe-là pour qu'elle puisse continuer? Alors, nous avons des grands rêves autour de l'accessibilité universelle. Puis j'ai le plaisir de dire, nous avons des rêves, pas juste moi, toute l'équipe ensemble. Mm-hmm. On a le rêve de positionner Altergo dans, comme un expert en accessibilité universelle, en loisirs, sport et culture. Je dis, on rêve de le positionner parce qu'on n'est pas encore rendu là. L'accessibilité universelle, c'est un nouveau concept. Il faut faire beaucoup de recherches. D'évaluer qu'est-ce qui se passe, comment on pourrait faire autrement. Parce que j'ai passé une grande partie de ma carrière à dire aux gens, il faut faire de la place aux personnes handicapées, il faut ouvrir les portes. On changeait les mentalités. Aujourd'hui, les gens, oui, c'est vrai, Monique, c'est une bonne idée de faire de la place. Comment on fait ça? Comment on fait une piscine accessible? Comment on fait un aréna accessible? Comment on développe des programmes? Comment on communique? Comment on rejoint les personnes qui ont des limitations? Alors, on est devenu beaucoup plus une organisation qui doit répondre à comment on fait. Alors, notre rêve, c'est vraiment d'être un pôle d'application de l'expertise en accessibilité, d'être capable de communiquer et d'aider les gens à rendre accessible. Et ce qu'on amène, l'accessibilité, c'est une richesse pour la communauté parce que quand tu rends les choses accessibles pour des personnes qui ont des limitations, tu le fais pour l'ensemble de la population. Tout le monde y gagne à ce qu'on pourrait dire, ce leitmotiv puis ce slogan d'accessibilité universelle. Alors, c'est mon rêve. Et qui sait, peut-être on aura un jour une chaire en accessibilité universelle et des chercheurs vont travailler avec nous pour qu'on puisse aller plus loin là-dedans.
Une équipe de combien, Altergo, en ce moment?
Nous sommes 30 personnes qui y travaillent avec le support de 1250 bénévoles quand même.
Quand même, quand même. Alors, on fait une petite pause musicale et on revient avec notre petit jeu questionnaire pour la fin de l'émission.
Certainement, merci.
Alors, on y va dans notre jeu questionnaire, Monique Lefebvre. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Monsieur Yvon Deschamps, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Gros coup de chapeau à lui et à Judy qui ont été vraiment des sources d'inspiration. Vraiment, ils m'ont inspiré beaucoup.
Vos mentors?
Celui dont j'aimerais parler, c'est mon professeur de Tai Chi. Je veux lui rendre hommage. Parce que c'est ça que je suis dans le monde du sport et loisirs. Je dois bouger, je veux bouger. J'ai trouvé une belle façon de bouger et de bouger avec mon intelligence et ma spiritualité grâce à lui. Alors, coup de chapeau à
combien
mon professeur.
Combien de temps le Tai Chi? Parce qu'on n'en a, on a ouais. pas parlé, ça prendrait
je suis dans ma 15e
plusieurs
année.
Heures.
Déjà 15 ans.
15 ans quand ouais. même. Okay.
Ouais.
Alors,
okay. Alors
15 ans, très fidèle, très...
Oui, une pratique régulière.
Ouais.
Alors, coup de chapeau à Peter Snow, mon professeur de Tai Chi.
Vos livres que vous recommandez, vous en inspirez aussi?
Bon, j'ai commencé mes lectures beaucoup avec le Dalai Lama, qui m'a ouvert à la compassion, à être capable de se détacher. Parce que quand tu fais de la défense de droit et de la promotion, facilement tu peux prendre à bras le corps la cause puis être blessé. Alors le Dalai Lama, vraiment m'a initié. Ensuite, j'ai passé à un niveau, je pense, supérieur avec Mathieu Ricard.
Oui.
Alors, j'adore ce personnage. J'ai eu le plaisir de le rencontrer aussi grâce à Jean-Marie Lapointe, qui est porte-parole du défi sportif. Alors,
le
Dalai Lama, Mathieu Ricard, puis des littératures aussi concernant Lao Tzu, qui est un chinois, un maître chinois vraiment très inspirant. Difficile à comprendre. Ça m'a pris plusieurs fois à lire et relire le livre. Il y a plusieurs éditions aussi de ses écrits. Mais pour nous, Nord-Américains, on n'est vraiment pas habitués à cette façon de penser-là. Alors, c'est un défi de lire, mais vraiment une grande source d'inspiration. On ne tombe pas dans ces livres-là facilement.
Qu'est-ce qu'on trouve comme livre à côté de votre lit en ce moment?
Ben, j'ai ressorti la Haute-Sault vu que je n'ai ici. Parce qu'il m'inspire, mais c'est surtout lui parce que j'en ai plusieurs. Puis disons que ça passe vite. Je relis souvent les mêmes sources d'inspiration ou j'aime bien aussi des contes chinois parce qu'il semble que par la féerie, on change les mentalités. Alors, les Chinois font beaucoup de contes, puis par les contes passent certaines valeurs. Alors, j'ai des contes chinois.
Vos artistes préférés? Qui vous inspire, on va dire,
oui,
ça comme ça.
Je vous en ai dévoilé deux.
Oui, j'adore, c'est ça, j'adore aussi.
J'ai un grand faible pour Leonard Cohen. J'apprécie énormément sa voix, sa musique qui nous rentre dans les eaux. J'apprécie énormément.
Les villes, vos villes qui vous inspirent, que vous aimez et pourquoi?
Bon, j'aime des grandes villes. Je suis allée à New York cet été. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Mais je vous dirais, j'apprécie des petits villages aussi. À la campagne, Eastman, j'adore la montagne et tout. Je trouve que c'est beau, des grandes villes, c'est inspirant. Mais aussi
à Eastman, vous aimez? Oui, donc, j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres petits villages que vous pourriez nous nommer?
Oh, Saint-Venant-de-Paquette.
Oui, oui, c'est ça.
J'ai eu le coup de foudre pour cet endroit magnifique. J'invite les gens à y aller. Puis si vous regardez la petite église, parce que c'est vraiment assez figuré par l'église qui est vraiment dans les cantons, on voit les montagnes autour, ben vous direz, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Monique, et j'ai entendu à la radio, qui l'a construit.
Alors, donc, à voir absolument. Merci. De cette belle heure. Si on veut avoir plus d'informations, on va sur le site d'Altergo.
Absolument.
Et puis, on va laisser tous les renseignements sur notre site Internet, vos livres. Merci infiniment.
Merci beaucoup à vous, à l'équipe de Canal M.
Merci à l'équipe aujourd'hui, à la mise en onde, réalisation Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna, ma recherchiste, Yannick Roberge aux choix musicaux, Claudia Benoît aux médias sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs, prenez soin de vous. Bye bye.